Il est, bien entendu, loisible au législateur de modifier la loi sur le droit d'auteur s'il le juge opportun pour faciliter l'introduction d'actions en violation du droit d'auteur par les sociétés de gestion. C'est avec ces mots que la Cour suprême du Canada a tranché contre Access Copyright dans la décision qui l'oppose à l'Université York. Décision de 2021 qui a eu des conséquences dramatiques sur le paiement de droits d'auteur par les universités canadiennes anglophones du pays. Je m'appelle Farnell Morisset. Pour célébrer les 100 ans de la Loi sur le droit d'auteur du Canada en 2024, j'avais entrepris d'explorer l'histoire du droit d'auteur, qui a mené aux 3 épisodes du balado documentaire de Copybeck, Loi sur le droit d'auteur, un siècle d'histoire. Mais il y a d'autres histoires à raconter qu'on n'a pas pu inclure dans la série originale. Dans la série, on a beaucoup parlé des décisions par les tribunaux et des changements législatifs à la loi sur le droit d'auteur qui ont suivi comme étant des moments charnières dans l'évolution du droit d'auteur au Canada. Pourtant, les changements législatifs tombent pas du ciel. Ils sont le résultat d'efforts politiques prolongés, mais souvent invisibles pour le public. Depuis l'arrêt York en 2021, un tel effort est en marche par les sociétés de gestion, et on a la chance de lever le voile sur tout le travail que ça implique. J'ai donc parlé avec Kate Edwards, directrice générale d'Access Copyright, qui essaye depuis la décision de la Cour suprême de 2021 de donner raison aux juges et de faire modifier la loi sur le droit d'auteur par le gouvernement du Canada. Il faut dire ici que les efforts d'Access Copyright ont, en fait, commencé bien avant ça, en 2012, avec l'adoption des exceptions larges d'usage équitable au droit d'auteur pour l'utilisation pour le milieu de l'éducation. Mais avant la décision York, la lutte se passait aussi devant les tribunaux. La décision finale de la Cour suprême en 2021 a définitivement mis fin à l'avenue des tribunaux et laisse la balle entièrement dans le camp du gouvernement. Qu'est-ce que ça prend avant qu'un changement à une loi soit proposé? Écoutons Kate Edwards.
On a plusieurs décideurs qui doivent être d'accord. En premier, les deux ministres qui se partagent la responsabilité pour la loi sur le droit d'auteur. Présentement, le ministre Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et la ministre Saint-Onge, ministre du Patrimoine canadien. S'ils appuient nos recommandations et les mettent de l'avant, que ce soit avec le budget ou dans un projet de loi spécifique, ils devront obtenir l'appui de leurs collègues du cabinet. Le ministre des Finances est très important pour le budget ou l'énoncé économique d'automne. Et finalement, le bureau du premier ministre. En plus des ministres et du premier ministre, sous eux, il y a toute une infrastructure de conseillers, chefs de cabinet, et ensuite la bureaucratie et la fonction publique qui les conseille. Alors, il y a des douzaines de personnes à rencontrer et à convaincre. Mais si tout ça est fait, que ces 4 offices, patrimoine, innovation, sciences et développement, économique, finances et le bureau du premier ministre sont tous d'accord et le cabinet appuie les recommandations, en théorie, ça peut mener au changement qu'il nous faut.
Bref, c'est tout un alignement des planètes qu'il faut. Évidemment, les ministres et premiers ministres sont constamment en demande par toutes sortes de gens qui ont des besoins différents par rapport aux lois, sans parler de leurs propres priorités législatives. Et en tout temps, la réalité électorale peut faire repartir les efforts à zéro. Pour Kate Edwards, c'est une expérience récurrente qui souligne toute l'importance de la persistance dans leurs efforts.
C'est une question de bâtir des liens, d'être cohérent, savoir que les choses peuvent changer. Comme vous l'avez dit, une personne change de portfolio ou démissionne, et même avec leur personnel, il y a beaucoup de roulements. Quoi qu'il y en a moins avec la fonction publique. Mais au niveau politique, il y a beaucoup de changements d'un bureau à l'autre. Ça veut dire qu'on doit souvent, malgré le fait d'en avoir parlé depuis 15 ans, avoir tenu des réunions avec des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'utilisation équitable ou de la loi sur la modernisation du droit d'auteur. Ce n'est jamais juste une réunion ou juste un appel. On entre dans chaque pièce avec l'espoir d'établir un lien avec la personne, qu'elle deviendra un champion pour notre cause et que ce n'est pas aussi vite oublié.
La loi sur le droit d'auteur a aussi une particularité qui rend encore plus difficile les efforts pour y faire des changements. Comme l'a mentionné Kate Edwards, contrairement à la plupart des lois qui se trouvent sous le chapeau d'un ministre particulier, La loi sur le droit d'auteur, elle, est en garde partagée entre deux ministres. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie d'un bord et la ministre du Patrimoine canadien de l'autre. Ça témoigne de la double importance du droit d'auteur en général, tant comme outil de partage des connaissances techniques et scientifiques que comme outil de développement culturel. Mais quand vient le temps de demander des changements à la loi, ça ajoute une couche additionnelle de complexité.
Il y a des sujets où c'est très clair qui a le pouvoir de prendre une décision. Si vous parlez de questions de politique culturelle, par exemple, la ministre de Patrimoine canadien a beaucoup d'autonomie et l'autorité pour faire avancer ces questions, émettre des recommandations et agir. Le droit d'auteur, comme c'est une responsabilité partagée, vient avec une couche additionnelle de défis. Il faut établir des liens avec deux ministres et bureaux ministériels, deux comités. Il faut aussi communiquer de façon à s'assurer que les sujets abordés vont résonner avec le portfolio d'un ministère. Pour le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, les intérêts sont dans le titre. L'effet sur l'économie, l'investissement et les emplois de la loi sur le droit d'auteur et la capacité des entreprises d'investir dans de nouvelles technologies pour contribuer à la croissance économique. Du côté de Patrimoine canadien, ces arguments sont importants, mais ils veillent aussi à l'accès aux œuvres canadiennes, la création de nouvelles œuvres littéraires qui reflètent la diversité et la portée de l'expérience canadienne contemporaine et comment la loi sur le droit d'auteur facilite ce travail d'écriture, d'édition et de partage.
Même si l'histoire de la loi sur le droit d'auteur est pleine de changements législatifs, je suis content qu'on ait pu prendre le temps de montrer que derrière ces changements, il y a des efforts herculéens de lobbying, de communication et de sensibilisation qui prennent des années ou même des décennies. Il faut aussi dire qu'Access Copyright ne mène pas cette lutte seule. Elle bénéficie du soutien de CopyBec, qui est à l'origine de cette série de balados, et a récemment aussi eu l'appui de la International Federation of Reproduction Rights Organizations. Comme quoi l'histoire de la loi sur le droit d'auteur peut sembler être une série de grands changements officiels annoncés dans des décisions des tribunaux ou des projets de loi, mais en pratique, c'est aussi le fruit de grands efforts en arrière-scène par des professionnels qui guident et influencent son développement. À la recherche, la scénarisation et l'animation, moi-même, Farnel Morisset, au montage et au mixage sonore, Studio Expression, interprétation de la chanson thème, Élie Sapie, une production et une réalisation de Denis Martel. Ce balado est rendu possible grâce à CopyBec, avec l'appui du gouvernement du Canada.